Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, notre invité est Tawali Abdounazir, chef de la police civile de la MONUSCO. Un poste qu'il occupe depuis février 2016 après avoir eu des fonctions similaires dans deux autres missions des Nations Unies en Côte d'Ivoire, au sein de l'ONUCI, puis au Mali à la MINUSMA. Tawali Abdounazir qui revient sur les principaux défis à relever en matière de police et de maintien de l'ordre en République démocratique du Congo, dans le contexte particulier du processus et des élections générales repoussées à la fin de l'année 2018.
Le principal challenge, c'est la question des protections des civils. La RDC est confrontée à un certain nombre de challenges, particulièrement la question des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays, dont la MINUSCO a eu mandat de protéger les civils des groupes armés, mais également dans le milieu urbain où il y a énormément de violence. Donc la police MINUSCO a ce challenge de protection des civils en milieu urbain, mais également en milieu périurbain, où nous travaillons avec les autres composants de la MINUSCO pour faire face à ces challenges-là.
Alors la RDC, c'est un pays qui est très très vaste. Vous avez des effectifs, mais ils sont quand même réduits. Combien d'abord d'effectifs vous disposez et quels sont les moyens également qui sont mis à votre disposition?
Le Conseil de sécurité a autorisé un niveau d'effectif qui est 1441 officiers à la police MINUSCO. Effectivement, c'est un pays énorme, mais les effectifs que nous avons, nous travaillons avec le peu que nous avons pour donner le meilleur résultat possible. Et nous travaillons également, on n'est pas seul, hein. On a une des forces les plus importantes des Nations Unies, la force MINUSCO, avec qui nous collaborons, mais également la composante civile, pour faire face à ces challenges de protection des civils.
Alors vous parliez des groupes armés qui sévissent à l'est du pays, il y a plusieurs poches et crises en RDC aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de violations par rapport au cadre électoral avec notamment la fameuse mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre dernier. Est-ce que ces événements ont rendu plus difficile votre tâche dans le pays et notamment donc pour le maintien de l'ordre et avec la police des Nations Unies?
Tout à fait. Vous avez évoqué les deux parties de la question de protection des civils en RDC. L'une est liée par les actes posés par les groupes armés dans les différents endroits, particulièrement dans l'est du pays. Un autre challenge dans la question de protection des civils, particulièrement dans le milieu urbain, c'est les violations liées au contexte électoral. Sur ces deux aspects, nous travaillons avec l'ensemble des éléments de la MINUSCO, où nous avons développé des stratégies intégrés au niveau de la mission, de façon à permettre à chacun de jouer son rôle. Donc la police MINUSCO, particulièrement sur la question des groupes armés, travaille avec les différentes composantes sur la question de l'information, de partage de l'information, de l'identification des auteurs de ces infractions. Pour la question du milieu urbain, la police MINUSCO a développé des stratégies propres qui sont ce qu'on appelait une stratégie de lutte contre l'insécurité, qu'on a développée dans les principales villes de RDC, où nous avons mis en place des centres de coordination de commandement intégrés avec un numéro vert où les gens peuvent appeler et la police, avec notre appui, bien entendu, va secourir ces gens-là. Donc l'idée, c'est d'apporter une sécurité de proximité. Et c'est quelque chose qu'on a pu aider les forces de sécurité nationales de recréer la confiance qu'ils avaient perdue avec la population. Donc c'est quelque chose qu'on a des meilleurs résultats. Également, nous ne sommes pas seuls. Il y a tout l'ensemble des partenaires, des différentes composantes de la MINUSCO qui y participent, particulièrement la force militaire civile. Donc, c'est tout un ensemble qu'on a mis en place. Et cet ensemble-là, aujourd'hui, porte des fruits, que ce soit là où il y a les grosses armées sévissent, mais également dans le milieu urbain, où on constate une baisse significative des violations des droits de l'homme. Un point important concernant les violations liées aux élections, nous travaillons sur ce point particulièrement avec la CENI, mais également avec la police nationale congolaise, dont nous renforçons leur capacité sur ces questions des élections. C'est-à-dire que nous les formons dans le cadre du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, sans utiliser des moyens létaux. Donc nous apprenons la maîtrise de soi et également d'intervenir avec des moyens non létaux, c'est-à-dire des gaz lacrymogènes, des boucliers, des casques. Beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup de choses à faire, effectivement.
Alors, Alors vous parlez donc des forces de police nationale et aussi donc de la CENI, on le rappelle, donc la Commission électorale nationale indépendante.
Tout à fait.
Sur la protection et le maintien de l'ordre, il y a eu quand même beaucoup de bavures réalisées par cette police. Comment vous avez pu essayer de rectifier le tir, si on peut dire? Comment vous avez pu, grâce à des formations, à du conseil, à de l'encadrement, tout en maintenant quand même le principe de souveraineté nationale, travailler avec cette police?
Effectivement, la situation n'est pas rose hein, en termes de violations. Il y a énormément de violations, effectivement. Mais nous avons travaillé et nous continuons à travailler pour renforcer la capacité, particulièrement de la police nationale, surtout la question des gestions des fouilles. Et les capitales, les autorités sont sensibilisées, sont vraiment volontaires pour améliorer les choses. Et nous travaillons avec eux. Les chiffres sont disponibles. Par rapport aux actes de violation posés par la police nationale congolaise en 2016, en 2017, donc il y a une nette baisse. De septembre 2016 à décembre 2016, il y a eu une diminution sensible, mais déjà nous constatons le fruit de nos efforts par une baisse assez sensible. Nous continuons à travailler avec la police nationale congolaise au plus haut niveau pour les engager, non seulement la police nationale congolaise, mais également l'inspection générale de la police nationale congolaise, qui est l'organe de surveillance des comportements des policiers. Donc on essaie d'intervenir sur les deux points de façon à faire baisser les violations essentiellement dues par la police nationale congolaise.
Face à cette situation, donc la communauté internationale a réagi cette année notamment. Le Conseil des droits de l'homme tente de lancer une mission d'enquête, d'établissement des faits dans le pays. La ministre responsable congolaise a également dit que son pays collaborerait dans une certaine limite à cette enquête. Quelle est votre contribution à ces efforts internationaux?
Déjà, nous avons travaillé avec les collègues des droits de l'homme sur le terrain, mais également avec les collègues de la force, pour pouvoir identifier, documenter ce qui s'est passé. Hein. Comme vous venez de dire, le haut commissaire aux droits de l'homme a désigné une équipe d'experts qui sont déjà venus sur le terrain, qui sont venus rencontrer les autorités nationales, bien entendu les autorités de la MINUSCO, qui sont déjà à l'œuvre, particulièrement dans le Kassai, où vous savez qu'il y a une crise assez aiguë hein, qui s'est passée il y a quelques mois. Donc les experts sont sur place et bien entendu, ils ont tout notre appui pour que puissent apporter l'appui nécessaire aux différentes enquêtes.
Alors il y a également donc d'autres agissements qui là sont dus plus à du personnel de l'ONU, mais également des casques bleus, personnel des agences, mais aussi personnel donc du maintien de la paix. On sait qu'il y a parfois des abus sexuels qui sont relevés ou des violences sexuelles. Là, quel est votre rôle dans ce domaine? Est-ce que vous menez des enquêtes? Est-ce que vous appréhendez des suspects?
D'abord, c'est une question très importante. Au-delà des Nations Unies, je pense que c'est l'humanité qui est concernée par cette question. Et à la MINUSCO, bien entendu, il y a eu un passé. Il y a eu des comportements répréhensibles dans le passé. La MINUSCO a développé une stratégie d'une manière globale. Et bien entendu, la police a développé sa propre stratégie sur ces questions-là. Alors, il y a toute une campagne de sensibilisation auprès des populations, des victimes. Il y a des numéros qui sont mis à leur disposition de façon à ce que l'information puisse nous arriver. Donc ça, c'est la première partie de maillage du territoire de façon à ce que l'information puisse arriver. Également, nous formons et nous sensibilisons les casques bleus, les femmes et les hommes qui composent les différentes unités, non seulement sur les règles des Nations Unies quant à la tolérance zéro, mais au-delà de cette prescription, la question de l'humanité. D'autant plus que quand on a décidé de servir une cause, qui est cause de la paix, on ne peut pas abuser de populations qu'on est venu servir. Donc c'est quelque chose qui est au-delà d'une simple règle et qu'on essaie de sensibiliser, non seulement sensibiliser, donc on les fait décharger individuellement et collectivement de mesurer l'importance de cette question-là. Et la MINUSCO, certainement vous êtes au courant, a connu une baisse assez sensible. Hein. Il reste encore des efforts, mais la MINUSCO déjà a enregistré plus de 50% de baisse par rapport aux chiffres qui étaient avant. Effectivement, notre objectif c'est d'arriver à zéro. Et on est convaincu des efforts conjugués des uns et des autres, on va y arriver très rapidement à zéro cas. Nous y travaillons. La stratégie qu'on a développée, non seulement c'est la sensibilisation, mais également l'après de prise en charge des victimes. Il y a tous des mécanismes qui sont mis en place pour prendre en charge les victimes de casques bleus, que ce soit hommes ou femmes. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, mais nous travaillons également sur prise en charge. Je voulais ajouter sur cette question-là, également pour les auteurs de ces violations, que nous avons demandé au pays d'origine qu'il y ait des poursuites. Et une fois que les faits sont établis, il y a une enquête qui est menée, le ou la collègue est rapatrié dans son pays d'origine et on demande au pays dont la personne est originaire d'engager des poursuites pénales. Et c'est quelque chose que vraiment qu'on apprécie de la part des pays contributeurs. C'est cet effort de tout le monde qui va nous amener à arriver à zéro cas. Des pays de contributeurs, des Nations Unies, des populations. Donc on doit tous se lever ensemble pour lutter contre ça. C'est quelque chose qui est au-delà des règles. C'est quelque chose qui est lié au respect de l'humanité, surtout des populations vulnérables qu'on est venu aider. Parce que s'il y a une mission de maintien de la paix aujourd'hui en RDC, c'est qu'il y a un besoin. Et si le besoin, le besoin est de protéger ce peuple et non pas d'abuser. Donc c'est tous ces mécanismes-là que nous avons mis en place. D'abord, avec la population, sensibiliser les casques bleus, de prendre en charge des victimes, mais également qu'il y ait des poursuites sur les auteurs de cas. Et nous sommes convaincus, et je suis très confiant par rapport à cette question, que très rapidement on arrivera à zéro cas en RDC.
Est-ce qu'également donc l'apport et la féminisation des effectifs, vous parliez de 1441 donc membres de cette police que vous dirigez, est-ce que la féminisation des effectifs est également un élément qui peut aider non seulement pour les abus commis par le personnel de l'ONU, mais également pour tous les abus des droits de l'homme que l'on constate en RDC?
Alors non seulement c'est une question très importante, la féminisation du personnel des Nations Unies, et c'est pas seulement sur le cas des violations d'abus sexuels, hein, c'est pas seulement pour ça. Mais effectivement, y compris sur le management, y compris dans le commandement, c'est une nécessité absolue de renforcer la présence du personnel féminin en termes de, déjà de tout ce qui est police communautaire par rapport à notre cas, de travailler avec les populations, de travailler avec les communautés. La RDC est un pays qui a plus de 52% de femmes et de jeunes filles. Et on ne peut pas se permettre de n'envoyer que des hommes. Donc on travaille avec la division police ici au quartier général de façon à augmenter le pourcentage du personnel féminin, d'abord pour avoir de meilleurs résultats, parce qu'on est convaincu qu'on aura de meilleurs résultats, mais également pour nous aider à lutter contre les abus et les exploitations sexuelles.
Une dernière question à Walé Abdounazir. Je le rappelle, vous avez été donc en poste aussi avec la MINUSMA au Mali pendant 2 ans et demi. Si vous dressiez une comparaison entre les deux missions aujourd'hui, quelles sont les différences marquantes finalement que vous avez pu observer donc, tant au Mali qu'en RDC?
Alors j'ai eu la chance de participer à la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, 5 ans et demi. J'ai fait 2 ans et demi le Mali et maintenant en RDC. C'est 3 missions en Afrique, mais 3 missions très différentes, hein, très très différentes. La Côte d'Ivoire, j'étais au moment de la crise électorale, hein, post-électorale, avec tout ce qu'il y a eu comme événement. Il y a eu d'énormes violations des droits de l'homme. Au Mali, je suis parti au moment où l'État était affaibli, donc nous avons participé au rétablissement et au redéploiement de l'État de droit dans la partie du nord du pays. Ça n'a pas été en 2013. C'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Donc, on avait participé à ce redéploiement de la restauration de l'autorité de l'État dans des espaces que l'autorité de l'État avait déjà abandonnés. Donc, de regagner, de mettre en connexion les forces de sécurité, les forces de défense avec la population. En RDC, le contexte est totalement différent. C'est un pays qui a connu des crises majeures, mais c'est un pays qui n'est pas sorti de la crise non plus. Donc, effectivement, il y a des élections qui sont annoncées. Mais ces élections annoncées maintenant, on voit énormément de violations, de démonstrations liées à ce contexte électoral. Et c'est dans le cadre de la prévention des violations, on y travaille particulièrement en RDC, qui était un contexte très différent du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, particulièrement en RDC, nous mettons essentiellement nos efforts dans la prévention, de la formation, de la sensibilisation sur la gestion démocratique des foules. Et c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas quelque chose qui relève de l'armée. C'est une responsabilité des forces de sécurité intérieure qui ont le droit, le devoir de gérer d'une manière démocratique sans user d'armes de guerre sur des populations qui ne sont pas armées. Donc c'est dans ce contexte-là que nous évoluons en RDC, comme je vous ai dit, est très différent des deux autres missions, mais c'est passionnant.
C'est avec Awale Abdounazir, chef de la police civile de la MONUSCO, que se referme Escale, un magazine conçu, produit et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.